Vous écoutez France Culture.
Vous n'avez pas la température à Marseille, d'où est originaire notre invité de ce matin, par hasard?
Non, je ne l'ai pas.
Mais enfin, il en est bien loin aujourd'hui, Marc Fumaroli. Bonjour Marc Fumaroli. Je vous présente la jeune fille qui est là, c'est Louison, qui le vendredi fait quelques dessins insolents, impertinents sur les sujets d'actualité des matins. N'ayez crainte, elle fait partie de cette très nouvelle, peut-être qui sait, République des lettres et du dessin, que nous appelons de nouveau. 7h42.
Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Au XVe siècle, au moment où l'imprimerie commence à faciliter la diffusion des idées, les humanistes européens constituent une société de savants, une république des lettres qui échange, réfléchit et permet l'émergence d'un savoir et d'un enseignement laïque qui veulent s'émanciper des états, des clergés, traverser les frontières, une sorte déjà de réseau social d'intellectuels dédiés aux valeurs humanistes. Cette république des lettres, c'est depuis très longtemps l'un de vos objets d'étude, chéri Marc Fumaroli. Vous êtes historien, je le rappelle, essayiste, professeur au Collège de France, membre de l'Académie française, et paraît donc chez Gallimard dans la collection que dirige Pierre Nora, Bibliothèque des Histoires, cette République des Lettres. Vous nous direz ce matin si le moment où paraît cet ouvrage était prévu de longue date. Je crois savoir que oui, ou si c'est un choix quand même de votre part, et s'il résonne en tout cas, et comment résonne-t-il avec le climat actuel, puisqu'il pose après tout une question très actuelle aujourd'hui de savoir quelle est la responsabilité de l'écrivain, de l'intellectuel, et comment ils peuvent à nouveau défendre ou réanimer quelques valeurs humanistes qui nous occupent. Rebonjour, bonjour Marc Fumaroli.
Bonjour.
On aurait pu titrer d'ailleurs ce livre un peu autrement, comme dans une autre collection bien connue chez un éditeur concurrent, « Dictionnaire amoureux de la République des lettres ».
Oui, si vous voulez, mais ce que je voulais faire, déjà qu'il s'agissait d'une série de points de vue, je parle à un moment donné de cubisme, qui saisissent le phénomène dans son ensemble, si j'avais alors pratiqué le dictionnaire, c'était l'éclatement complet. Là, j'ai essayé de combiner une vue d'ensemble qui transcende au fond 3 ou 4 siècles, et puis, malgré tout, des éléments de repère, des grandes articulations du développement de cette République des lettres européenne, qui, à mon avis, est un des chapitres les moins connus de l'histoire de l'Europe.
Alors, la République des lettres, quand on l'évoque, on pense tout de suite, avec qui c'est peut-être un peu d'aspect péjoratif, à la République des lettres, quoi, au milieu littéraire germano-pratin, qui, du Collège de France, au Café de Flore, en passant par la Sorbonne et la rue Sébastien-Bottin, se coopterait pour faire vivre, qui sait, chaque saison, des prix, des honneurs et autres cocktails. Point du tout, point du tout. La République des lettres, c'est une chose extrêmement sérieuse, qui peut paraître abstraite, mais qui existe depuis bien longtemps. Marc Fumaroli, il y a même une date, ou au moins plusieurs. Alors, 1417 par exemple, ça correspond
1417, c'est très important, parce que c'est la première fois que la notion de République des lettres en latin, res publica literaria,
c'est écrit comme ça,
apparaît dans une correspondance entre un jeune humaniste qui se trouve à Florence, mais qui est d'origine vénitienne, et qui s'adresse à un de ses aînés, Poggio Bracciolini, qui lui se trouve dans le nord de l'Europe, se trouve en Suisse alémanique, où se tient un grand concile mondial, si j'ose dire, et qui a trouvé dans des abbayes des environs des manuscrits de textes que l'on croyait perdus. Et c'est à mon avis, c'est très important de connaître cette lettre pour l'histoire et pour le concept même de République des lettres, parce que il fait de sa lettre un éloge de son interlocuteur, en lui disant « Vous venez de rendre un service à la chose publique, au patrimoine commun, en nous rendant des textes que nous croyons perdus. » Et là, on voit se dessiner, à l'arrière-plan, le grand projet de Pétrarque. Ce poète, qui est devenu, au fur et à mesure qu'il vieillissait, il s'est éloigné de la poésie en langue vulgaire et il est devenu de plus en plus un bon latiniste, un grand commentateur de textes, un poète aussi latin, Et il a été frappé par un phénomène que personne avant lui n'avait observé avec tant d'acuité et tant d'éloquence. Il a considéré que on vivait en chrétienté, c'est-à-dire dans la vraie religion, depuis l'époque constantinienne, mais qu'il s'était passé un événement terrible, c'était la chute de l'Empire romain, c'est les invasions barbares, c'est la disparition des grandes bibliothèques grecques et latines, et donc la chrétienté n'avait pas développé dans son sein une civilisation comparable à celle dont avaient joui ces païens, ces gens qui pourtant avaient une mauvaise religion, pendant si longtemps, que ce soit sous la forme de république en Grèce, ou même à Rome, ou sous la forme d'un empire qui est encore plus majestueux, si j'ose dire, et dont les restes subsistaient à Rome sous forme de ruines majestueuses qui faisaient paraître les petites maisonnettes construites depuis, ridicules et même un peu humiliantes. Alors comment corriger cette espèce de décalage entre la vérité religieuse, qui elle n'a jamais été si brillante, et qui est même administrée dans les universités par de grands théologiens, mais la vie politique, la vie artistique, les mœurs, la vie quotidienne, si vous voulez, dans une atmosphère qui ne soit pas brutale ou grossière, cela, on peut le reconstituer en retournant aux textes fondamentaux de la Grèce et de Rome. Et le travail de la République d'Hélène, ça devait être de reconstituer une bibliothèque là où elle s'était éparpillée et qu'on ne la maîtrisait plus.
Alors, cette République des Lettres, elle est faite, vous écrivez, de savants, d'érudits, de par toute l'Europe, hein, qui vont correspondre à la
avant
question...
Avant tout, des philologues, des gens qui aiment, des philologues, qui voilà. connaissent les langues et qui sont capables d'éditer des textes.
Qui sont capables d'éditer des textes, et vous dites, au fond, qu'ils observent les peuples et les nations européennes. Il y a des extraits fameux d'observation des uns et des autres, notamment sur qui le fait français encore, ou autre chose. Mais ce qui est très intéressant dans ce que vous nous faites découvrir, il faut bien le reconnaître, on ne sait pas tout, on n'a pas tout de votre érudition, Marc Fumaroli, c'est qu'il y a déjà, on a le sentiment, comme un principe quasiment laïque dans cette manière justement de sortir de la chose religieuse, en créant comme un réseau qui va effectivement se mettre à étudier et reconstituer l'histoire des peuples et d'une manière extrêmement libre, départie de toute notion religieuse.
Oui, alors vous avez raison, le projet de Pétrarque a permis à toute un laïcat, si j'ose dire, des gens qui étaient des marchands, des princes d'abord, il faut commencer par eux, des princes laïcs, des marchands, des banquiers, des secrétaires, des gens qui avaient affaire à la chose écrite, de prendre une beaucoup plus grande importance et même de fonder leur carrière, leur ascension sociale sur des recherches de type humaniste. Et, en fin de compte, nous assistons, avec la fondation de la République des Lettres, son développement, sa coopération, ses travaux, à une première sécularisation du savoir. Jusque-là, le savoir était le privilège des clercs, des futurs moines, des futurs professeurs de théologie, des futurs prédicateurs. C'était une affaire de clergé.
Et là, il y a émancipation.
Tandis que là, on sort de là. Du cadre de l'université à finalité théologique, et on entre dans un monde qui essaye d'échapper à ces cadres pour retrouver la vérité ou les vérités sur lesquelles avaient travaillé les fondateurs de la grande civilisation gréco-romaine, dont la nostalgie devient un principe moteur du savoir.
Alors,
jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'au XIXe siècle, l'Europe s'est fondée sur comme une sorte de schizophrénie. Elle était à la fois contemporaine et elle se comparait sans cesse à une civilisation disparue qu'elle trouvait, si vous voulez, dans ses fouilles, qu'elle trouvait dans ses souterrains, ou qu'elle trouvait à la surface à Rome.
Alors, avec cette République des Lettres, vont apparaître des concepts qui sont parfois compliqués à définir, mais qui vont de pair. Le voyage et la question de la correspondance donc la conversation, qui sont des au cœur de votre livre et qui constituent là aussi, on va dire, le ferment de ce qui fera la grandeur des nations européennes et notamment, en l'occurrence, de la France. La France est un jardin que ses productions généreuses perdent presque par autarcie. Par moment, écrivez-vous, citez-vous, il y a l'art de la conversation apparemment insaisissable, mais qui est animé par un désir naturel de vérité. En quoi ces questions-là de conversation, de correspondance, sont-elles importantes dans cette question de la République des Lettres ? Et en quoi font-elles écho aujourd'hui ?
Elles sont importantes parce que la méthode des grandes universités médiévales, c'était la dispute. C'était une dispute fondée sur une connaissance approfondie de la logique et de la dialectique. C'était une discipline très sévère et que seuls des experts de haut niveau pouvaient pratiquer entre eux et qui restait un tout petit peu difficile pour le public. Tandis que dans la République des Lettres, la question c'est de coopérer, c'est de faire un travail de découverte à plusieurs. Et la conversation, c'est tout simplement la méthode qui attribue à l'échange entre savants le principe de nouvelles découvertes et d'une sorte de travail méticuleux sur les différents sujets qu'il traite. La conversation est la mère, si j'ose dire, de la correspondance. C'est la même chose, sauf que les interlocuteurs ne sont pas présents l'un à l'autre, mais qu'ils profitent de l'absence pour développer leur point de vue et attendre la réponse de l'autre. Et le voyage, c'est une autre méthode du même type, puisqu'elle vous permet d'aller rencontrer sur place des savants qui s'occupent de sujets comparables aux vôtres et qui vont vous donner le dernier état de la question de leur point de vue. Et ces trois moyens de connaissance ne sont pas des moyens mystérieux. Ils s'apprennent. Ils ont leur pédagogie. Et même, c'est à la pratique qu'ils font de ces trois exercices que l'on reconnaît le vrai savant.
Schizophrène, vous parlez de schizophrénie, vous l'êtes sans doute un peu, vous aussi, hein, Marc Fumaroli, parce qu'on sent bien que vous êtes à l'aise dans ce monde de la République des Lettres, du trottoir du Collège de France, mais aussi avec la familiarité de tous ces chers disparus, ces aïeux qui ne sont plus là depuis plusieurs siècles et que vous avez l'air de tutoyer, que ce soit de Pétrarque à Béresque, en passant par Barclay ou Kaiserling et d'autres encore. Vous avez quand même fait attendre pendant très longtemps votre éditeur, pour que ce livre, qui est ici aujourd'hui en studio, arrive et soit publié par Gallimard. Écoutez, Pierre Nora, qui a été joint quelque part entre deux pistes de ski par hier Antoine Beauchamp.
C'est un projet que j'ai depuis à peu près 35 ans avec lui, qui a suivi sa thèse et qui, débouchait sur un sujet dont il était d'une certaine façon l'inventeur, à savoir cette espèce d'institution culturelle, d'international, de savants, de lettrés, qui se cooptaient, se ressemblaient et représentaient au fond les intellectuels de leur temps. Et donc, il est évident que par rapport à aujourd'hui, c'est une sorte d'abord de découverte historique et c'est aussi la préhistoire dans l'Europe moderne des intellectuels. Et faire la genèse de ce qui a été en fait l'esprit des intellectuels et l'histoire de l'Europe littéraire, aujourd'hui, où tout cela est en train, à beaucoup d'égards, de se perdre, est particulièrement important à rappeler.
Voilà, Pierre Nora, au micro d'Ambre, philosophe Rousseau, qui lui ne parle pas de schizophrénie. Mais il parle, et parlant de vous, votre éditeur, Pierre Nora, il parle, parlant de vous, Marc Fumaroli, allez, de deux temporalités.
S'il reste encore quelque chose des humanités, quelque chose d'une internationale de la littérature et des lettres, c'est à ce type d'institution littéraire que nous le devons, à ce type de tradition. Un homme comme Fumaroli, savant comme il est, érudit comme il est, engagé dans son temps comme il l'est, est probablement un des ultimes représentants. D'ailleurs, lui-même, au fond, fait une histoire qui est une histoire en même temps très personnelle, parce qu'il dit toujours que, au fond, il vit un peu sur deux tempos et deux registres, le registre de l'actualité dans laquelle il est engagé, et ce registre de ses compagnons, qui depuis Erasme ou Péresque ou Belle sont ses interlocuteurs choisis.
Votre vanité va en souffrir, Marc Fumaroli, de ces propos de Pierre Nora.
Ce que je répondrai à Pierre, avec lequel je suis toujours d'accord, et naturellement, sur ce point-là, c'est difficile de ne pas l'être, c'est que un des motifs qui m'ont mu à me lancer dans cette aventure, une longue aventure, comme vous voyez,
35 ans,
c'est que je suis très préoccupé par le fait que nous vivons en Europe, dans une Europe pacifique, dans une Europe qui est un marché avant tout, qui est un phénomène économique au premier plan, et qui n'est pas capable d'avoir inventé une éducation européenne. Or, il me semble que...
Alors qu'elle a existé, au fond, quelque part.
Alors que le point sur lequel on ne peut pas nier qu'il y a toujours eu une Europe, c'est l'existence de cette République des Lettres. Ce sont ces hommes qui avaient leur tempérament national, qui avaient leurs préférences nationales, qui avaient leurs préférences religieuses, mais qui étaient capables, parce qu'européens, de dialoguer entre eux et de faire avancer les choses. Parce que le projet de Pétrarque est un projet de progrès.
Voilà, et nous verrons s'il est toujours d'actualité. Vous avez entendu la cloche, hein ? C'est le dessin. Oh, regardez l'œil méchant que vous fait Marc Fumaroli, Louison. Décrivez-nous le dessin qui arrive.
Pas méchant, mais inquiet.
Je le sens un peu. Alors,
n'ayez pas peur.
Alors, décrivez-nous votre dessin.
Alors, on y voit le président Hollande se réjouir que la République des Lettres fasse place à la République des Chiffres, et les mauvais chiffres, en l'occurrence, pour le président.
Ah, voilà, donc le très dessin bien. Va partir.
Et très qui est ce personnage à lunettes ?
C'est le président de la République, hein.
Ah, c'est lui, ouais. C'est notre dieu laïque.
Voilà.
Gardez la ressource pour 8h15 où Brice Couturier introduira le débat à Marc Fumaroli.
Oui, Marc Fumaroli, vous le rappelez, la grande chance de la Renaissance, ce fut l'invention de l'imprimerie. La grande invention médiologique de notre temps, c'est Internet. Avez-vous le sentiment d'assister à l'agonie de la culture humaniste ou bien à sa métamorphose?
Voilà, la réponse à 8h15 pour l'heure sur France Culture, il est 8h.